Good evening, bonsoir. Vous êtes sur l'émission Amuse-Gueule sur Planète FM 104.6 FM. Nous sommes à Auckland, Nouvelle-Zélande, et nous sommes le dimanche, quelle date on est ? 23 juillet 2017, c'est ça, hein ?
23 ?
Ouais, 23 juillet, je vois ça. Le temps passe vite.
Déjà.
Ouais, c'est l'été en France, c'est l'hiver ici. David à l'appareil, en très bonne compagnie, petite compagnie, mais très bonne compagnie. Anne-Sophie, bonsoir.
Bonsoir.
Voilà, la technique. Et puis une petite rubrique, musique aussi. Moi, je parlerai bouquin, deuil, je parlerai... Oh, puis Virginie vient juste de nous rendre visite. Virginie vient d'arriver dans la salle. Bonsoir, Virginie.
Bonsoir, ça va ?
Ça va, elle parle de loin, mais on va l'entendre bientôt, pas de problème. Quoi d'autre ? Oui, donc de ça. Et puis, je sais pas de quoi va parler Virginie, elle va nous le dire bientôt, dans quelques minutes, j'imagine, quand elle sera posée. T'as envie de parler de quoi, ce soir ?
Je vais parler du Becherel.
Becherel, pas mal, Becherel. Je crois que je l'ai à la maison, mais ça fait un paquet de temps que je l'ai pas regardé, le Becherel. Tu l'as à la maison, toi ?
Non, mais moi j'ai abandonné. Hein.
Ouais, on est en Nouvelle-Zélande depuis trop longtemps. Donc voilà, puis musique aussi, côté musique, on parle de...
De Barbara Valdés.
Barbara Valdés.
Je sais pas si on dit Valdés ou Valdés, mais on verra, je suis pas très sûre.
Ça s'appelle comment ?
W. C'est le problème.
Ouais. Bon. On va en parler quand même. Et puis on va passer des musiques, hein, c'est ça ? T'as fait un
show de musique ? D'accord. On va passer quelques chansons.
Et puis, on n'a pas de petites annonces ce soir ? Il y a le festival du film international, c'est dans une semaine ? Quatre jours, cinq jours, jeudi ?
Ça commence le 26, ouais.
Oui, c'est ça, deux jours.
T'as booké des films français ?
Il y a pas mal de films français, ouais, il y en a deux ou trois. J'ai regardé, je me suis dit, j'aurais bien aimé, mais je sais pas si je vais y aller. Toi, tu vas y aller ?
J'ai pas encore booké de film.
Non, j'ai pas booké. Puis le site est assez bizarre, le site de Auckland Live. C'est assez difficile parce qu'ils font film par film au lieu de faire dans le temps. Ils faisaient tous les films ensemble et puis on voyait la liste et on pouvait cocher. Mais maintenant, il faut vraiment que tu ailles par film, à moins que tu achètes le carnet de 10 tickets, machin chose. Acheter 10 tickets, faut avoir le temps d'aller voir 10 films. Quoi.
Oui.
Qu'est-ce que t'en penses ?
Je sais pas, j'ai regardé un film hier. Je voulais juste vous le recommander si vous l'avez pas vu. Ça s'appelle Boomerang.
Bon, c'est à la télé ou c'était.
Oui, enfin, je l'ai trouvé sur Internet.
D'accord. C'est français ?
Oui, c'est français. Très très bien si vous l'avez pas vu.
Non.
Je recommande.
C'est avec qui et ça parle de quoi ?
Alors, l'histoire en fait, c'est. C'est un frère et une sœur qui ont perdu leur mère quand ils étaient assez jeunes. Mm-hmm. Et il y a tout un mystère finalement autour de la mort de la maman. Et l'histoire finalement, c'est juste le fils qui fait sa recherche, essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et les secrets de famille avec le père et la grand-mère qui cachent des secrets, etc. etc. Et puis on finit par comprendre ce qui s'est passé à la fin. Et c'est un drame familial, mais très très bien.
Et il y a un peu de suspense, donc comment on appelle ça ? Pas du suspense, une énigme un peu à résoudre, c'est ça ? Donc on cherche pendant le film.
Plus ou moins, en fait, on se rend compte que la famille ment et au fur et à mesure de l'histoire, le fils finit par comprendre ce qui s'est vraiment passé au travers, en découvrant les mensonges du père et de la grand-mère. Et l'essentiel de l'histoire se passe à Noirmoutier. Donc très intéressant.
Ok.
Pas mal. Et c'est avec des gens que tout le monde connaît ou pas du tout ?
Alors je vais essayer de retrouver, mais il y a des acteurs. En fait, c'est ça le problème, c'est que je
ça fait tellement longtemps. Ouais.
Ça fait tellement longtemps, ils sont peut-être très très connus.
Je suis pareil. Je vois des acteurs, je dis le nom me dit rien, leur tête me dit un petit peu, et bon.
Donc en fait, ils sont peut-être très très connus, mais ils sont pas très très connus pour moi.
Ben oui, on habite loin, puis on les voit pas tous les jours. Alors, en première musique, tu as choisi quoi, Anne-Sophie ?
Alors, j'ai choisi donc Barbara Valdés, puisque c'est ce que je vais principalement passer ce soir. Et la chanson s'appelle « Le grand H de l'homme », qui est le titre de son album sorti en février. « Le grand H de l'homme », donc le même titre.
Fini le
temps d'être femme, d'être ronde et chaude comme du pain. C'est fini le temps des femelles, des mamelles, des nourrices et du sein. C'est fini. C'est fini le temps d'être femme, d'être ronde et chaude comme du pain. C'est fini le temps des femelles, des mamelles, des nourrices et du sein. C'est fini. Place au temps de l'homme qui dormait, qui veillait d'un œil patriarche sur mon ventre et ma chair et mes cuisses et ses terres et ses serres et ses vaches. Place au temps de l'homme qui se libère et qui s'arrache. Place au temps de l'homme qui m'habite. Homme en moi, toi l'homme, le macho dans mes tripes. En moi, toi l'homme, l'homme qui m'habite. Toi qui te cachais derrière mon féminisme sournois, toi que j'écoutais sans savoir, toi qui exerçais ton hystérisant pouvoir, toi qui m'as dressé contre toi, toi l'homme en moi, tu as mangé ton hôte, la femme est bien digérée, ça y est, il n'en reste plus qu'une fumante apocalypse, la place est à toi, homme, ça y est, je l'ai conquis mon grand H, je n'ai plus peur, plus mal au ventre, plus de lait dans mes piles, le clito desséché, ça y est, je l'ai conquis mon grand H, à la sueur de mon front, à la sueur de ma voix, ça y est, je suis un homme, je suis un homme. Toi par ma chair androgyne, qu'une dernière fois j'accomplisse la pénible et féminine besogne de toi, homme. J'accouche, ça y est, je l'ai conquis mon grand H, ça y est, je n'ai plus peur, ça y est, je suis un homme, ça y est, homme, tu es moi. Tu es libre, ça y est, je suis un homme. Place au temps de l'homme qui se libère et qui s'arrache. Place au temps de l'homme qui m'habite, 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 m'habite. Le macho, le macho dans mes tripes. Oh, ça suffit. Arrête. Stop, 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 stop. Ça
suffit. Oui, c'est une fin assez abrupte. Donc, c'était le grand H de l'homme, et c'est par.
Par Barbara Valdés.
Barbara Valdés, avec un W.
Avec un W, voilà. Je peux vous parler de Barbara, si
vous
voulez.
Bah oui, s'il te plaît, parce que moi, en fait, je la connais. J'avais jamais entendu parler.
Ben non. Ben alors voilà. Alors, on en entend beaucoup parler ces derniers jours, malheureusement. Mais c'était une jeune artiste née en 82, donc qui donc, comme je disais, venait de sortir son album en février, Le Grand H de l'Homme, et qui malheureusement est décédée cette semaine, le 19 juillet, sur scène. Dans le Lot, dans le cadre du festival Léo Ferré. Alors, d'après les premiers indices de l'enquête, il semblerait que ce soit une électrocution. Il y avait un orage. À ce moment-là, à cet endroit, et il semblerait qu'il y ait eu un éclair ou quelque chose. Bref, elle s'est retrouvée pétrifiée sur scène, quoi. Donc, c'est très triste. Surtout quand c'est une jeune artiste comme ça. Donc je voulais vous la faire connaître, vous passer quelques-unes de ses chansons. Vous reconnaîtrez qu'elle est très inspirée par Barbara et par Brel. Elle a gagné plusieurs prix. Alors, je vais vous... premier prix en 2016. Premier prix au concours Jeunes Talents du Festival Jacques Brel. Prix des révélations sur scène de l'Académie Charles Cros. Elle a aussi été la lauréate du prix révélation scène 2016 de l'Académie Charles Cros et du premier prix du concours Jeunes Talents 2016 du Festival Jacques Brel. Donc... Cette dernière année a été vraiment l'année qui l'a propulsée. Elle commençait à se faire connaître en France, venait de sortir son album et malheureusement, ça a été bien trop court. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, il n'y a pas seulement qu'une influence Brel et Barbara. Dans la chanson que je viens de vous passer, il y a aussi une influence très cirque, je dirais, théâtrale et cirque. Et en fait, elle a grandi dans le cirque. Elle a appris le jonglage, l'acrobatie, le trapèze avec ses parents. Toute petite, elle était déjà plus portée sur les mots. Elle écrivait des poèmes. Et puis, une fois adolescente, elle a commencé à se mettre à la musique, au piano, et a commencé à écrire, chanter, faire ses propres chansons. Elle s'est associée à deux musiciennes, Marion Diac, violoniste, et Barbara Amadi, pianiste. Et donc, toutes les trois...
trois jeunes femmes sur scène.
Voilà, on fait cet album. Je vais vous passer tout à l'heure un live qu'on peut trouver sur YouTube. Et puis, tout au cours de cette émission, je vais vous passer plusieurs chansons de son album Le Grand H de l'Homme, parce que c'est une artiste à découvrir absolument. C'est de la chanson française classique, très très bien écrite, les musiques sont belles, à écouter à volonté, vraiment c'est formidable. Et malheureusement
c'était le premier mais c'est le dernier.
Voilà.
Bah, à moins qu'ils en sortent des qui seraient pas passés pendant sur le CD, sur le, des fois ils en enregistrent 24, ils coupent à 12 pour un album.
On va savoir. Mais il y a pas mal de live sur YouTube, parce qu'en fait, elle s'est fait connaître un peu en faisant beaucoup de scènes avant de faire son album.
Elle est 82, donc elle avait 35 ans.
Oui, mais elle n'a pas toujours fait que ça. Avant, par exemple, elle s'est associée à des gens du cirque, et ils ont fait festival de rue. Mm-hmm. Et puis ensuite, elle a pris la direction, enfin, elle a monté avec un autre groupe un théâtre. Elle a fait d'autres choses avant, dans le cirque, dans le théâtre.
Oui, elle a eu une d'autres vies.
Très très artiste, très saltimbanque. Une femme assez extraordinaire et malheureusement,
décédée trop jeune.
Donc, j'espère que vous apprécierez les chansons qui vont ponctuer cette émission.
Merci, Enzo. Alors, on va passer au Becherel, Virginie.
Oui, je me suis dit, tiens, pourquoi pas? En fait, c'est venu d'un sujet de conversation que j'ai eu cette semaine où on a commencé à me poser des questions sur la grammaire française, comparaison de la grammaire anglaise. Et je me suis dit, oh mon Dieu, la grammaire française, c'est tellement compliqué. Je vais essayer de regarder mes Becherel et de voir si je me souviens un peu de la grammaire française. Et non.
Tu t'en souviens, les Becherel avec tout, mais toi pas.
Mais en fait, je me suis dit, c'est bien d'avoir les Becherel parce que finalement, on se souvient jamais de la grammaire. C'est très difficile de se souvenir des règles. Il y en a tellement. D'ailleurs, j'ai en face de moi un document qui dit les 40 règles essentielles. Il y en a tellement plus qu'ils font quand même un document.
On limite
pour
à 40.
Dire, 40.
Je peux poser une question, Jenny. J'ai le Becherel et le Bled. Le Becherel, c'est la grammaire, et le Bled, c'est quoi?
Alors, en fait, le Becherel, il y a trois documents, enfin, il y a trois bouquins qui... Alors, moi, j'ai les trois, d'ailleurs, en tant que j'allais dire geek, mais c'est pas très français, c'est pas très Becherel, justement. Conjugaison, grammaire et orthographe.
D'accord.
Qui, à la base, sont pas les documents qui... Le véritable document qui a été créé, ça s'appelait le véritable manuel des conjugaisons ou la science des conjugaisons mise à la portée de tout le monde.
Ouais, c'est ça.
Ouais.
Je trouve que le titre en lui-même...
Mise à la portée de tout le monde, ouais.
Le titre en lui-même n'est pas à la portée de tout le monde. Donc, juste pour vous donner un petit historique... Donc le Becherel s'est nommé après les frères Becherel. Donc il y en a deux, Louis-Nicolas et Henri-Honoré. Ils sont tous les deux nés à Paris. Il y en a un qui est né le 10 juin 1802, Et le deuxième, il est né le 12 juin 1804, dont la raison pour laquelle on les appelait Becherel l'aîné et Becherel le jeune. Donc ils ont tous les deux, comme j'ai dit, publié le ou participé en tout cas à l'écriture du véritable manuel des conjugaisons ou science. Enfin, c'est très compliqué finalement, hein. Et qui a été édité en 1843. Et qui est publié par les éditions Attier depuis 1913. Donc on a fêté c'est les 100 ans. Il y a pas très très longtemps. Donc je disais il y en a trois. Enfin, en tout cas moi j'ai les trois et il y a eu plusieurs éditions. Alors j'ai essayé de trouver combien d'éditions il y avait eu et j'ai pas trouvé. Je pense qu'il doit en avoir des centaines parce que ça change tout le temps. Voilà, ça change tout le temps. D'ailleurs, je me suis rendu compte en cherchant qu'on a changé beaucoup de mots français. A priori, maintenant, il y a écrivaine et écrivain.
Mais c'est un très, très gros débat parce que en piochant dans mes deux bouquins, j'ai vu que les prix Goncourt, prix Femina, j'ai vu qu'en fait, la semaine dernière, que l'Académie française ne reconnaît pas encore écrivaine, toutes les féminisations, parce qu'ils en disent, en fait, un titre, c'est un titre. C'est-à-dire que la Lune, c'est son nom à la Lune. Donc, on va pas dire, le Luneau. On va pas masculiniser
ou docteur.
Une chose.
Un
docteur, c'est un diplôme. Donc, ils disent, non, on va pas dire une doctoresse ou une doctorine.
Parce que c'est un titre.
Parce que c'est un titre d'un diplôme d'études.
Mais pourtant, on dit un maître, une maîtresse.
Et oui. Et mais donc, ça, ils disent, il y a des très anciennes exceptions, genre 150 ans.
Que fait la langue française sans ces exceptions?
Mais quand, il y a 10 ans, 15 ans, c'était la mode de tout féminiser. Et en fait, c'est une mode qui vient de l'Angleterre, enfin, de l'anglo-saxon. Comme les anglo-saxons.
Oui, c'est unisex.
Voilà, c'est unisex. Et les Français s'en disent, on va tout unisexer. Donc, on va faire le et la pour tout. Mais l'Académie française, jusqu'à maintenant, donc ils ont encore refait un papier il n'y a pas longtemps. Donc tous les 10 ans, l'Académie française refait un papier sur la sexualisation ou la non-sexualisation des titres en fait. Donc maître, maîtresse ou mère, mairesse, machin chose et
mairesse.
tout ça. Bah oui.
Oui, mairesse.
Mais en fait c'est pas pareil. La mairesse c'est la femme du maire, mais on dit madame la maire en fait ou madame le maire.
Oui,
c'est
on dit
compliqué.
Madame le maire. Oui.
Madame le maire, en fait.
Parce que
c'est le titre.
Bah oui, parce qu'on dirait Madame le président.
Voilà, et c'est Madame le
président.
Bah si, et la présidente, c'est la femme du président. Donc c'est compliqué en français. Pour l'instant, les journaux, depuis 10-15 ans, se sont mis, surtout les journaux féminins, hein, c'est Elle Magazine, Cosmopolitan en France, Le Figaro Madame, qui ont commencé il y a une quinzaine d'années, c'est marqué sur le site. L'Académie française répond, on est désolé, on a des femmes à l'Académie française, mais la grammaire, c'est la grammaire, la conjugaison, c'est la conjugaison. La lune, c'est la lune, c'est pas le lune, c'est pas le luneau, on ne martyrise pas.
On peut pas changer,
on peut pas changer le mot comme ça par fashion, par mode.
Mais les femmes à l'Académie française, on les appelle académiciens ou académiciennes?
Je crois que c'est une académicienne.
Une académicienne.
Ah, oui, mais alors là, c'est un titre.
Oui.
Oui, mais c'est peut-être un titre qui existe à l'origine.
Je sais pas.
En fait, t'as pas le droit, ça sonne comme si on n'avait pas le droit de rajouter.
Nos chers amis anglophones qui nous écoutent et qui n'arrivent pas à savoir quand utiliser le féminin, masculin, etc. Vous voyez qu'on est trois Français là et qu'on ne sait pas mieux.
Qu'en regardant, par exemple, écrivaine, ils disent c'est une grosse erreur, c'est un truc de mode.
En fait, ça n'existe pas.
Ça n'existe pas. C'est un écrivain féminin ou un écrivain masculin. Mais on reste des écrivains. Voilà. Un journaliste, c'est un journaliste ou une journaliste, mais on ne fait pas une journalistesse ou une journalistine, on ne transforme pas, on ne met pas une petite fin féminine pour féminiser.
Je suis sûre qu'il y a une règle de Becherel.
Dans mes
40 règles de Becherel, je suis sûre.
Est-ce que le Becherel est toujours relevant aujourd'hui?
Je pense que oui, en tout cas. En fait, je me suis posé la question justement.
Bah oui.
C'est que les règles en elles-mêmes sont.
Vas-y, trouve le mot français. Je sais pas.
Sont. Je ne sais pas.
Oui, oui, on est tous pareils, on est perdus. On est là, trois vieux Français habitant trop longtemps en Nouvelle-Zélande. Donc, relevant, c'est quoi relevant, en français?
Elles ont raison d'être.
Oui.
C'est pas mal.
Pam.
C'est pas ça, mais c'est bien.
Mais en fait, ce que je trouve, et généralement c'est pareil pour quand il s'agit d'apprendre des langues ou et même sa propre langue, c'est que c'est jamais expliqué de manière à ce qu'on puisse vraiment connecter avec la règle ou le. C'est jamais vraiment. C'est très théorique, mais rarement pratique.
Oh bah, et puis aussi, moi. Le Becherel conjugaison, je ne sais pas les deux autres, mais le Becherel conjugaison, je le consulte encore de temps en temps à cause des subjonctifs, des imparfaits, des verbes irréguliers. On a quand même une pléthore de verbes irréguliers. Donc, des fois, tu es en train d'écrire une lettre ou taper un email et tu te dis zut.
De T, de.
Il a fallu que
de zère,
je vous lasse, machin chose, et vous lasse deux SE, S, pas S, un T. Enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. Donc,
tout à fait,
donc je retourne au Becherel conjugaison parce que là, tu vas à vouloir, boum, 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 page du mot vouloir, boum, tu trouves l'imparfait du subjonctif de machin.
Mais il y a tellement de quand on regarde un verbe, le nom, le gérondif, par exemple.
Le quoi?
Le gérondif.
Vas-y, rappelle-nous ce que ça veut dire.
Mais je ne sais pas.
Ah. Ça se met en salade avec les gésiers.
Oui,
c'est,
ouais.
En fait, il y a tellement de formes différentes d'un verbe, dont le gérondif. Et c'est ça que je dis, c'est pas très pratique finalement. C'est qu'il y a une règle, on nous explique la règle, mais personne n'arrive à connecter vraiment avec le mot ou le verbe ou la forme du verbe. Donc c'est pas. Oui, c'est pas pratique de manière à faire en sorte que les gens utilisent les verbes ou les règles de manière quotidienne. Donc j'ai quelques questions, j'ai un petit quiz. Alors je sais pas si tu.
On fait une pause musicale avant le quiz.
Oui, à mon avis, c'est mieux.
Ouais. Ah, Bon, alors je précise quand même j'ai passé toute mon enfance avec des notes sub-zéro en dictée quand même.
Ah oui.
Ah oui, sub-zéro. Hein.
Pareil.
C'est pas zéro, c'est sub-zéro.
Très très
mauvaise
aussi. Ouais.
Donc je vais avoir du mal. Donc c'est pour ça que j'ai le bled et le Becherel et que je m'en sors toujours pas d'ailleurs.
C'est pour ça que j'ai.
D'ailleurs, je viens de Google quelle est la différence entre le bled et le Becherel et il semblerait que ce soit la même chose, sauf
c'est
que
ça.
Voilà, le bled est sorti après guerre, le Becherel existait avant. Et le bled a été écrit par un couple d'instituteurs.
Ah, c'est la compétition.
C'est la compétition, en fait.
Genre, un, c'est attend, l'autre, c'est Nathan, l'autre, c'est Achier ou Achète.
Voilà, c'est ça. Ouais. Ça fait un peu ça.
Becherel, c'est quand même plus vieux. Donc, c'est comme l'Académie française, c'est deux siècles. Si l'autre a un seul siècle, c'est.
Un seul siècle.
C'est n'importe quoi.
Alors,
donc, j'avais oublié le bled, mais oui, ça me revient.
Oui, si, on avait ça. Mais à la maison, j'ai pas le bled. J'ai les
trois
au moins
Becherel.
Un Becherel. Je sais pas si j'en ai deux. Mais j'ai définitivement
j'ai
pas
j'ai le
trois.
Coffret complet, moi.
Tu nous rappelles les trois? Donc, conjugaison,
c'est
vas-y.
Conjugaison, orthographe. Grammaire et orthographe.
Mmh. Orthographe, ouais. Bon. On va s'amuser avec le quiz. En attendant, je vous passe une vidéo que vous pouvez trouver sur YouTube de Barbara Veldens. Une chanson qui s'appelle Purple Room, qui est extraite de l'album Le Grand H de l'Homme. Donc là, c'est une version live. Et elle est accompagnée, par Barbara Amadi au piano et Marion Diac au violon alto. Je ne sais pas où ça a été enregistré, mais donc en live.
C'est parti.
insecte géant, pourvu chacun d'un dard luisant, fait de maillons de carapace noirs et ronds, telles les perles du scorpion. Les oreillers bleu ciel et les draps tendres roses sentent la lessive et la gueule de boa. C'est Pinocchio qui va être content au réveil. Des dards que l'essence, ça sent la poisse, c'est dégueulasse. Et l'anniversaire est loin derrière. La veille, elle a 13 ans dans sa chambre mauve. Elle a 13 ans dans sa chambre mauve. Papa. Pas de quoi, elle prend un échantillon du mauve de sa chambre, un échantillon d'essence de dard. Elle l'avait déjà en elle depuis l'anniversaire, loin derrière la veille. Et puis elle sort parce que c'est dehors que l'horizon l'appelle. Elle sort. Elle sort. Puisque la terre est ronde et que l'univers est sans limite, elle aura dans ses pieds le fond, dans ses yeux l'horizon, et au-dessus du crâne l'infini, tel un fil à ne jamais rompre. Restez debout, grandir, avancer, restez debout, grandir, avancer, restez debout, grandir, avancer, restez debout, grandir, avancer. L'ivresse l'aidera à oublier combien elle fut minuscule dans sa chambre pauvre, sous les dards des hommes décérébrés.
Voilà, voilà. Alors là, c'était Purple Room.
Purple Room, que, donc le live que l'on trouve sur YouTube.
D'accord. C'est toujours Barbara Valdez.
Et qui est aussi sur l'album Le Grand Âge de l'Homme.
D'accord. Pour parler du gérondif, on va reparler Becherel, machin, mais alors le gérondif, d'après Lobs, la conjugaison, Lobs de le magazine. Emploi du gérondif présent. Le gérondif indique une simultanéité entre deux actions dont le sujet est identique. Là, déjà, juste à lire la phrase, je suis
recommence,
perdu.
Recommence.
Ah ouais, donc, le gérondif indique une simultanéité entre deux actions dont le sujet est identique.
Ouais, ben ça veut rien dire.
Parce que quelque part, si je traduis, il y a un sujet, il fait deux choses, Paul va à la plage et à la mer. C'est la même chose. Paul va à la plage et mange une glace. À mon avis, ça doit être ça. C'est la similitude. Il fait les mêmes choses en même temps. Il y a un seul sujet, c'est Paul, et il fait deux trucs.
Alors, ouais, mais c'est deux présences.
Alors,
hein.
Il est souvent introduit par la préposition en. Ah bon, j'ai tort.
Non,
alors.
C'est un exemple.
Si, c'est ça. Il rêve en marchant. Voilà. C'est en travaillant qu'il a réussi. Ah, donc en travaillant, en marchant. Donc Paul mange une glace en allant à la mer.
Et ça s'appelle comment déjà?
C'est le gérondif présent là. Parce que attention, il y a d'autres gérondifs.
Et ben, il y a forcément gérondif passé. Ça c'est évident.
Ah, j'ai des sueurs.
Le gérondif passé est une forme conjuguée indiquant une notion d'antériorité.
Oui, comme
la
passé,
construction,
quoi, oui.
C'est une forme composée. On utilise le participe présent de l'auxiliaire être ou avoir, et on rajoute le participe passé du verbe à conjuguer qui s'accorde selon les règles d'accord du participe passé.
Il faut un dictionnaire pour comprendre le Becherel.
Voilà. Et là, donc l'exemple, étant arrivé, nous avons téléphoné à nos amis. Ayant vendu notre voiture, nous ne pourrons pas venir.
Oh, on utilise ça souvent.
Alors ça, c'est du super vieux français qui n'existe plus.
La vie des frères Becherel prend tout son sens justement puisque ils ont écrit un dictionnaire géographique, historique, biographique et mythologique après. Donc là, finalement, je comprends. En fait, c'était la carte pour pouvoir comprendre le Becherel. Ah, là, je comprends mieux. Bon, j'ai deux, trois...
Allez, t'as des quiz.
J'ai deux, trois questions.
Je sens que ça va faire mal.
Je vais essayer de... Parce qu'en fait, ça vient... Alors, juste pour vous dire, donc Becherel a un site internet, becherel.com.
Ah oui, quand même. C'est mort d'énergie. Ils sont morts il y a 200 ans, mais ils se...
Ah oui, mais là...
Enfin, c'est les éditions Attier, te dis d'ailleurs.
Oui, et non, mais c'est...
C'est la grosse industrie.
C'est la grosse industrie. Et puis, mais par contre, il disait, ça se pub, c'est toujours publié, je crois, des millions d'exemplaires par an.
Ah bah y a,
la version papier marche toujours.
Il y a 10 millions de petits Français à l'école, donc j'imagine au lycée, à l'université. Donc
mais on en a toujours besoin. Tu sais que moi, avant de partir de France, donc il y a quand même 16 ans, presque 17 ans, le truc que je suis allée me racheter avant de partir, c'est le bled et le Becherel.
Pareil.
Ah oui.
C'est très... Hein. Ben oui, parce que... Bah parce que je connais mes compétences
tu disais,
en français.
Je vais partir, moi.
Non mais je me suis dit mes emails ça va être la honte quoi. Mm-hmm. Donc on en a un, j'en ai un.
J'ai l'impression finalement la grammaire française prend plus de sens une fois qu'on a réussi à parler une langue étrangère aussi. Parce qu'en fait on arrive à comprendre un peu mieux. Par exemple, je disais en espagnol et en anglais ils ont le progressif présent.
Hablando,
estoy hablando ou I'm talking.
Ah oui, j'ai fait quelque chose maintenant.
Je parle en parlant. En fait, oui,
on n'a pas vraiment.
Je suis en train de parler.
Ouais, c'est ça. Je suis en train de parler.
I'm talking. Je suis maintenant en train de faire cette action dans le présent.
Mais on n'a que le présent. On n'a pas de présent progressif.
Non.
Mais par contre, une fois que l'on parle anglais. C'est plus facile de parler espagnol parce que finalement on comprend le présent progressif en espagnol puisqu'on peut comprendre le présent progressif.
Oui, ça donne du sens. Parler d'autres langues donne du sens sur sa propre langue.
Absolument.
Et à mon avis, c'est pour ça qu'on trouve tous les trois. On trouve facile de corriger la grammaire anglaise parce qu'à mon avis, on a fait tellement de grammaire française qui est compliquée que la grammaire
anglaise très simple.
Anglaise est un peu plus simple.
Ah oui,
bon, il y a des irrégularités quand même, il y en a moins qu'en France.
Ah oui.
Et donc, sauf au niveau prononciation. Alors, par contre, l'anglais au niveau prononciation,
c'est plus difficile parce qu'il y a un
mot qui sonne pareil, qui a le même son, mais qui est écrit 40 fois différent.
Ah oui. C'est homonyme.
Homonyme. Il y a des homonymes.
Here and here, le lapin, les cheveux, sheep.
Ouais.
Voilà. Mais ça c'est parce que nous on n'entend pas la différence.
En plus, oui.
Mais un anglophone entend vraiment la différence entre le i et le deux e.
Parce que nous on n'a pas ça finalement.
Bah, on n'a pas les voyelles courtes et les voyelles longues en plus.
Oui. Bah, d'ailleurs on a fait. Alors je vous recommande d'aller dans les archives de Amuscule parce qu'il y a quelques semaines on a fait une émission sur comment apprendre l'apprentissage des langues étrangères et entre autres le problème de l'audition et comment on a des niveaux de son que l'on n'entend pas ou que l'on entend moins. Et un des exemples dont on parlait, c'est une émission avec Brenda qu'on a eue où je lui disais que j'ai désespérément essayé d'apprendre le chinois et que j'étais incapable d'entendre la différence des sons et pour la langue chinoise,
tonalité, oui.
Voilà. Et c'est une question sonore d'oreille et donc le chip et chip, ton exemple que tu donnes, et puis les chit et tous ces trucs là, on a tous le même problème parce qu'en tant que Français, on n'a pas développé une certaine
capacité auditive.
Ouais. Voilà.
Bah, sur les voyelles, surtout les voyelles courtes et les voyelles longues. Pour nous, c'est le même i. Le i c'est i. Mais il y a
y a pas de chi
et i.
I.
Oui, non, bah non.
Et on fait pas la différence.
Donc, question.
Vas-y. Quiz.
Question quiz. Mais on va être deux à se tracasser. À moins que vous voulez nous appeler au 815, c'est quoi le téléphone encore
téléphone.
Je crois qu'on a le bouton, on n'a pas un truc électronique qui nous rappelle, c'est la boîte de Sophie.
815.
Ah si, c'est là.
0, c'est 9, hein, c'est ça
ouais.
815.
Tu vois où
8100.
Merci, 8100, 815, 8100.
Alors je ne promets pas que je vais être capable
de prendre
l'appel.
Mais on ne promet pas qu'on va y pouvoir.
L'appel.
Et il n'y a rien à gagner en plus.
Il n'y a rien à gagner.
Mais aussi, on va
c'est juste pour
notre respect.
Oui. Notre très grand respect, parce que c'est Becherel hein, quand même.
Alors,
allez, vas-y.
À quel temps de l'indicatif le verbe est-il conjugué? Je suis surpris IS à la fin, de votre remarque.
C'est du présent de l'indicatif, ça, non?
Non, mais déjà, vous me rappelez ce que c'est l'indicatif? Bah ouais, je suis désolée.
C'est la forme simple. C'est la, voilà.
Ah, d'accord.
Bah, alors, oui, c'est l'indicatif présent. C'était l'indicatif présent. Mais c'était piège. Parce que c'était IS. C'était un piège.
Ah oui, parce que si c'est pas la même finition de mot, c'est non, pas le même mot.
Non,
la
même finition. Tu aurais pu te dire, je suis surprise, c'était pas assez composé. C'était un piège, mais t'aurais pu te dire que. Mais non, c'est.
Je suis surpris. Et comment on sait que c'est passé composé? Parce que c'est un i.
Ah non, parce que je suis.
Non, je crois que c'est ça, parce que sinon ce serait. Ben non, je
suis
surpris.
Ah non, puis surpris.
C'est composé.
Surpris, c'est un adjectif dans ces quoi cas-là, c'est pas un verbe.
Non,
c'est un si, c'est surprendre.
J'étais surprise. Passé composé, non?
Oh,
oui,
mais
j'étais surprise, passé composé. Oui, tu as raison.
Qu'est-ce qu'on est nul.
On a du mal.
Alors, bon, vas-y.
Laquelle terminaison du verbe n'appartient pas à l'imparfait? A-I, A-I-S, A-I-T, I-E-Z.
A-I, c'est le futur.
Gagné, très bien.
Mais ça, je l'ai copié 1000 fois.
40 000 fois. Bah, disons que t'as fait la faute, t'as écrit AI 40 000 fois, donc tu te faisais disputer, tu disais non, c'est AIS, AIT et les autres.
Non, mais je me pose la question à chaque fois que je dois écrire un texte en français et que je m'en mêle dans les temps.
Allez, on se fait une petite question grammaire.
Allez.
C'est y a la règle de pluriel des noms en OU.
Hein? Ah, hibou, caillou,
jujou.
Il y en a 7, il y en a 7.
Et tu sais qu'il y en a 7.
Ah oui, je me rappelle, j'ai appris ça à l'école tout petit.
J'ai trouvé ça aujourd'hui.
Hibou, chou, genou.
Alors on a hibou,
caillou,
chou.
Attends, qu'est-ce qu'on a fait? Hibou, caillou, chou, genou. Hibou, caillou, chou, genou.
Il n'y a pas pou, hein. Pou, pou.
Si, il y a pou.
Pou. Pou.
Ah oui, il y en a manque 2.
Hibou, caillou, chou, genou, pou.
Oh, il y en a 7, je sais qu'il y en a 7.
Ah merde. Hibou, caillou, chou, genou, pou. Ah bah non, bah je sais pas. Bah,
bijou.
Bijou, mais bien
bijoux,
sûr!
C'est et bijoux.
Joujou.
Ah, joujou, c'est joujoux.
Eh oui.
Ah ouais?
Des joujoux.
Bijoux, bah bien sûr, bijoux.
Des joujoux,
c'est avec le pluriel des noms en OU se finissant S, sauf bijoux, caillou, chou, genou.
Et joujou.
Joujou, pou.
Joujoux.
Très dur.
Ouais, j'aurais pas fait joujoux.
J'aurais
fait joujou avec un S.
Ouais, moi j'aurais fait joujou avec un S.
Non, allez, encore une dictée à sub-zéro.
Voilà,
Joujoux.
Joujoux.
Donc c'est bijoux.
Oui, bijoux, bien sûr.
Choux, genoux, ibux, joujoux et poux.
Ouais.
Poux.
Bah, puis dans le sud. Mais c'est ça qui est rigolo. Moi j'avais un copain, comment il s'appelait Martinez, je crois. Et qui était donc descendance portugaise, mais bien français, comme tout le monde. Et il était arrivé dans mon école, je suis normand, hein. Il arrive dans mon école, on a 7-8 ans, et lui, il arrive de Marseille. Et donc, il avait fait toutes les dictées, et la maîtresse, il nous apprend, parce qu'il se tape des zéros, mais toutes les semaines. Et puis, et donc la maîtresse le prend, elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourtant, t'es normal, intelligent, on parle aux parents. Et puis, en fait, lui, le petit, dit au bout d'un moment en classe, bah oui, mais le problème, madame, c'est que, à Marseille, les dictées, bah, il prononce tous les mots et toutes les lettres. Donc, je vais à la plage. et donc, il faisait toutes les liaisons et il mettait aussi les fêtes. Donc, il prononce les S de fin de mot et tout ça. Quand il faisait la dictée, je fais, bah oui, mais... Ah oui, parce qu'en Normandie, on prononce pas les fins de mots du tout, mais dans le sud de la France, on prononce les fins de mots, et surtout quand on fait la dictée. Donc, c'était une autre... Culturellement, à 1000 km du nord au sud de la France...
Mais oui, parce que leur accent, les doubles M.
Et voilà.
Ah oui?
Mais ouais, ou quand tu m'embêtes, tu auras forcément le M. Alors que nous, dans le Schnorr, on dit tu m'embêtes.
Voilà.
Embête. Mais ouais. Eux, ils vont forcément faire tu m'embêtes.
Tu m'embêtes.
Oh.
Donc ils prononcent beaucoup plus de lettres. Voilà. Surtout les lettres de fin de mot que nous, dans le Nord, on ne prononce pas. On ne prononce pas les lettres de fin de mot. Un S à la fin d'un mot.
Donc, pour avoir des bonnes notes à la dictée, il faut aller à Marseille.
Ouais, c'est ça.
Oui, c'est ça.
En fait, c'est ça. Je me dis finalement, j'ai toujours été mauvaise en dictée parce que j'étais du Schnorr.
Bon, voilà. Du Schnorr, j'étais pas dans le bon coin.
T'es pas dans le bon coin.
En fait, si tu nais au-dessus d'Avignon, t'as
foutu.
Toutes les excuses du monde pour être mauvais en dictée finalement.
Ouais, c'est ça.
Ah, bah ça, je me sens tellement mieux maintenant. Et donc, je vais vous en faire juste une petite dernière. Avec quelle forme verbale compléter cette phrase à l'indicatif imparfait? Dans ce village isolé, nous nous ennuyons. Ennuyons, Y-O-N-S, Y-I-O-N-S, nous nous ennuyâmes.
Bah non, c'est du nous nous ennuyons, Y-O-N-S.
C'est ça.
Parce que c'est du présent, c'est pas du... Nous nous ennuyâmes,
c'est du passé simple.
Ah ouais, ouais, ouais. Il n'y avait pas de passé, le premier verbe, la première partie de la phrase n'est pas du passé, c'est... Dans ce village,
je suis isolé, nous nous ennuyons. Oui, c'est du présent.
Ah là, j'ai des sueurs, je me retrouve.
Bah, c'est du présent, non, c'est censé être de l'indicatif
en CM2.
Oui, mais c'est l'indicatif du présent, c'est l'indicatif du présent.
C'est nous nous ennuyons. Oh, c'est difficile.
Y-O-N-S, non? C'est pas Y-O-N-S? Là, je vais commencer à transpirer aussi. C'est pas grave, de toute façon, on va s'en remettre.
Nous nous ennuyâmes. Ok.
Nous ennuyâmes.
Nous nous ennuyâmes longuement.
Bon, on a perdu le quiz alors.
Bon, on n'a pas gagné. On n'a pas perdu, mais on n'a pas gagné.
Je me dis, finalement, personne n'a appelé, donc personne sait.
Oui, en fait, oui. On a fait peur à tous les auditeurs et les auditrices. Tout va bien. Passe une petite musique, alors, pour débloquer le...
Voilà. Donc, tu nous as tout dit sur le Becherel, hein.
Oui, oui, si on a un peu de temps, à la fin, je pourrais vous donner des petites règles intéressantes que j'essaie toujours à décrypter, mais...
Tu veux dire que tu sais toujours pas ce que ça veut dire?
Non, c'est que je sais toujours pas m'en servir. Enfin, je les comprends les règles, mais après, en fait, c'est ça le truc. C'est tu peux lire et comprendre après en temps réel. Après, quand tu fais ta dictée, c'est déjà beaucoup plus difficile.
Ouais, ouais,
excellent. Excellent. Bon, là-dessus, je vais vous passer une autre chanson de Barbara Valdès qui s'appelle À mes flancs.
À mes flancs, sans savoir, j'ai des hameçons qui chopent des morceaux du passé. Et je traîne mes lignes, mes harpons, mes crochets, et je traîne mes regrets. À mes flancs s'accumulent encore bien frétillant les choix que je n'ai pas faits. Les photos, les cahiers, les amours, les enfants, les vies que j'ai rêvées. À mes flancs, je suis flanqué de toute la panoplie des années. Ça m'angoisse, je passe plus dans les portes des bistrots sans forcer les côtés qui dépassent. À mes flancs, lorsque je me retourne, ça veut plus, ça peut plus, ça suit plus. Et ça me taille une culotte de cheval en forme de regret. Et c'est laid. J'ai l'encyclopédie en 80 volumes des horreurs que j'ai bavé. Je le décompte des fois où j'ai dit que j'étais nul, où je me suis pardonné. Il y a même un sudoku que j'ai jamais fini parce que j'arrivais plus. J'ai des casseroles au cul qui font tellement de bruit quand j'avance, j'avance plus. J'ai un monstre qui fume, j'ai une loupe qui dévore le monstre qui fume. J'ai déjà quelques morts, j'ai des plumes qui m'échappent, des passions qui s'endorment, des envies toujours inassouvies. J'ai des femmes meurtries en pagaille qui sont toutes moi, qui me sortent des yeux, qui me lâchent plus les entrailles. J'ai des hommes blessés qui me restent à gripper, qui supplient que j'arrête de les aimer. J'ai des orgasmes bides qui me le laissent vide et avide et béant. J'ai du sang circulant tous les mois s'écoulant à mes flancs recyclés, recrachés. À mes flancs, j'ai un cri poussé comme un esclave des langues déjà inventées. À mes flancs, je travaille des pensées empruntées, triomphant, puis jetées. J'ai un rêve, mais ça c'est moi qui le tiens. Je le lâche pas, je le lâche pas. Ça doit vouloir dire ça. Vivre, j'en sais rien, ça fait peur, mais je lâche rien. À mes flancs, j'ai un rêve, mais ça c'est moi qui le tiens. Je lâche rien, je lâche rien. Ça doit vouloir dire ça. Vivre, j'en sais rien, ça fait peur, mais je lâche rien.
Alors j'espère que vous avez apprécié cette superbe chanson.
Je venais juste de dire que c'était assez brénien comme
c'est
tonalité.
Très brénien. Et aussi.
Si ça se dit brénien.
Ouais, bon là, au point. Et je ne sais pas si vous avez reconnu aussi, mais je trouve qu'il y a un petit côté Mano Solo.
Ouais, peut-être. Ouais.
Dans ses albums des années 90, d'accord. Qui est très chanté comme ça, où la ça monte, il y a l'orchestre derrière. Je trouve ça très. Très Mano Solo. Bref.
Pourtant, elle est plus simple. Là. C'était piano, c'était tout en douceur ouais. Dans celui-là.
C'est joli, hein.
Ouais.
Bon, alors David, tu veux nous parler de livres.
Ah oui, pardon. Un prix féminin et un prix Goncourt du premier roman. Parce que les Goncourt, ils ont quand même pas mal de prix du Goncourt des lycéens, Goncourt machin, Goncourt truc. Donc, ce sont des livres qui parlent de la mort, du décès, du deuil. Et en fait, je me suis aperçu que son livre qui ne parle pas que d'un seul deuil à chaque fois. Il y a un des deux livres que j'ai préféré. Alors, je dis merci. Hein. On a fait une journée crêpes gâteau à l'Alliance française pour
petit
la radio.
Déjeuner.
Petit déjeuner. C'était quand déjà
fin juin. Ça a l'air d'avoir été.
Il y a longtemps, mais c'était il y a pas longtemps, il y a un mois quoi à peine. Et c'était très très bien. Donc merci l'Alliance française encore
de nous
avoir
accueillis. On va le refaire d'ailleurs.
On va se refaire ça.
Oui. D'ailleurs, si des gens ont des livres.
Voilà, c'est ça. Donc j'ai acheté 4 livres et donc 2 que j'ai lus là pendant les vacances.
Virginie. Si vous débarrassez de vos livres français. Passez-les nous.
Mais des bons, comme ça, là. Prix Goncourt et prix féminin, surtout. Hein.
Parce qu'en fait, on s'est rendu compte, quand on est ce breakfast, qu'il y avait des tas de gens qui, finalement, apprenaient le français ou voulaient lire, qui n'étaient pas français eux-mêmes, mais qui voulaient lire des bouquins français pour s'améliorer en français. Mmh. Et donc, on avait des livres et ils étaient très, très enthousiastes.
Oui.
Donc, si vous avez des livres, que vous retournez chez vous et que vous ne voulez pas emmener des livres français, on les veut,
on ouais. prend. Merci.
On prend donc
parce qu'on va organiser un autre petit déjeuner avec une
allez sur notre blog ou notre Facebook Amuse-Gueule
voilà, et on ira les chercher,
contactez-nous.
C'est pas un problème.
Ouais. Et puis aussi on est consommateurs nous-mêmes. Parce que comme on habite loin de la France aussi, qu'on n'y retourne pas toutes les deux minutes, eh ben ça nous manque un petit peu. Mm-hmm. Ah donc ces deux bouquins.
Bon, tes livres.
Donc deux petits livres que j'avais choisis, ils font tous les deux 140, j'ai noté ça quelque part, 151 pages. Pour le premier qui s'appelle Le Fils, c'est de Michel Rostin. et qui est lui, c'est lui le concours du premier roman en 2011, qui est paru en 2011. Et puis le deuxième, c'est Où on va, papa, qui est de 145 pages et c'est de Jean-Louis Fournier, lui qui a gagné le prix Femina en 2008, donc un peu plus vieux. Presque 10 ans, 9 ans, 9 ans. Donc, ce sont pas des bouquins tout neufs, mais moi, je connaissais pas. Je connaissais un petit peu Jean-Louis Fournier par la télé. C'est lui qui avait fait, La Noiraude, le dessin animé, de la petite vache noire.
Ah, oui, oui. Non.
Si, si, il a fait 64 épisodes de La Noiraude, il a fait plein de trucs, ouais, donc il, c'est un producteur, réalisateur.
Mais on se souvient tous de La Noiraude.
Écrivain, ouais, ouais, là, c'est, bah, ça, et puis ça repasse en blue, quand, en fait, La Noiraude.
En fait, tu te souviens de La Noiraude si tu te souviens des VHS, en fait.
Voilà, aussi, il y a ça aussi.
Les deux vont ensemble.
Oh là là, je me sens vieille là.
Mais donc, ouais, donc il a fait plein de trucs. Ils ont tous les deux dans les 70 piges. J'ai leur bio. Donc Michel Rostin, pour parler, celui qui a écrit le Fils, le premier livre dont je vais parler. Donc il est né à Mende en Lozère en 42, donc comme je dis 75 ans maintenant. Et il est metteur en scène de théâtre lyrique et musical et maintenant écrivain français. C'était son premier livre. Il a commencé à étudier la musique en autodidacte à l'âge de 7 ans et repris assidûment des études de musique pendant les années 70-80. Il a enseigné la philosophie en classe terminale, puis a été chargé de cours au département de psychologie. Psychologie clinique de Paris 7 dans un même temps il travaillait dans un laboratoire de recherche en sciences humaines et à la clinique psychiatrique de la Borde dirigée par Félix Gattari et Jean Houry. À ce moment de sa vie, Michel Rostin a pu aller voir une des choses qui lui tenait le plus à cœur avec l'écriture, la musique et en faire son métier. C'est ainsi qu'il a fondé une compagnie de théâtre lyrique et musical en 1978 et qu'il a pris la direction de la scène nationale de Quimper en 95. Après ça, il était directeur du théâtre de Cornouailles, toujours à scène nationale de Quimper, entre 95 et 2008. Donc, il a fait beaucoup de théâtre musical en Bretagne. Donc, là, il est de Lozère, il est parti en Bretagne. Maintenant, il vit dans le sud de la France. Maintenant, il n'y a pas longtemps qu'il est parti dans le sud de la France.
Quel parcours!
En fait, il est prof philosophie, psycho, recherche.
Il a fait La Noiraude.
Et comme il a fait, non, lui c'est pas La Noiraude, c'est l'autre, c'est Jean-Louis Fournier. Et il se retrouve à faire de théâtre musical pendant 20 ans de sa vie. Parce que c'est sa passion, en fait. Donc il se retrouve à faire sa passion au lieu de faire son boulot. C'est rigolo.
Ben oui. Il y a un très bon documentaire sur l'hôpital psychiatrique de Gattari, dont j'ai oublié le nom, mais ça se trouve facilement sur Internet. Et entre autres, le documentaire filme la production théâtrale de la fin de l'année des gens qui sont dans cet établissement. Cet établissement était à la pointe du soutien des gens avec des...
Par l'art,
et entre autres par le théâtre.
Bah, à mon avis, c'est peut-être lui qui le faisait.
Je
suis pas sûr, hein. C'est pas écrit,
ça
là, dans cette petite bio. C'est une petite bio que j'ai trouvée sur babelio.com. Voilà. Enfin, voilà. Donc, Michel Rostin, ce qui lui arrive, un pépin, lui, sa femme et son fils, il leur revient un pépin et, 5-7 ans plus tard, il écrit ce livre qui s'appelle Le Fils. Je vous lis la première page, ou une partie de la première page. Il dédie ce livre à Martine, sa femme. Alors, chapitre 1. Papa fait des découvertes. Par exemple, ne pas passer une journée sans pleurer pendant 5 minutes, ou 3 fois 10 minutes, ou une heure entière. C'est nouveau. Les larmes s'arrêtent, repartent, elles s'arrêtent encore, et puis ça revient. Etc. Plein de variétés de sanglots, mais pas une journée sans. Ça structure différemment la vie. Il y a des larmes soudaines, un geste, un mot, une image, et elles jaillissent. Il y a des larmes sans cause apparente, stupidement là. Il y a des larmes au goût inconnu, sans hoquet, sans la grimace habituelle, ni même les reniflements, juste des larmes qui coulent. Lui, c'est plutôt le matin qu'il a envie de pleurer. Donc, vous êtes bienvenus là-dedans. Pour moi, c'est très très bien écrit, c'est même assez poétique. Donc, quand on lit la bio de Rostin, de Michel Rostin, on s'aperçoit que son côté musical, théâtral, a très bien transpiré dans son écriture. Donc, il écrit c'est un récit. Goncourt l'a nommé dans la catégorie du premier roman. Mais en fait, c'est autobiographique. Son fils est décédé à l'âge de 21 ans d'une crise aiguë de méningite soudaine. Donc, il est mort en 3 jours. Boum. Mais les 2 premiers jours, il savait même pas qu'il l'avait. Il avait une grosse fièvre, 41 degrés de fièvre. Il était à l'université de Rennes. Sa maman vient le chercher, il le ramène à la maison. Il est malade, malade. Et le lendemain matin, c'est passé un genre vendredi soir. Le dimanche matin, il est super malade. Donc, le lundi, on va chez le docteur parce que les docteurs étaient fermés. Donc, le lundi, on va chez le docteur. Le docteur dit, faut aller à l'hôpital parce que c'est pas bon là. Enfin voilà. Et donc ça, c'est l'histoire vraie. Et donc le livre écrit 5 ans plus tard, donc c'est 2003, je crois. Donc il écrit le livre en... Ah non, il écrit 7 ans plus tard, en 2010. Donc paru en 2011. Et donc c'est un petit livre, mais il y a beaucoup de poésie, il y a beaucoup d'ambiance musicale, parce qu'on voit le travail de deuil que fait... le papa, donc c'est le fils qui parle, tout le livre c'est le fils qui est décédé, c'est l'écrivain, donc Michel Rostin a pris le parti pris du je vais parler comme si j'étais mon fils du ciel et je me vois moi le père.
D'accord.
Donc c'est en fait c'est le fils qui écrit sur les réactions du père qui découvre son fils parce que il a laissé des emails, il a laissé des trucs machin, il était en études à Rennes, il faisait un master de je sais plus quoi de philosophie ou psychologie et puis il découvre qu'il avait une copine et puis il découvre plein de trucs. Donc il y a une petite enquête au début mais très vite ça passe assez vite ça et en fait le livre pour moi c'était bien c'est que en fait la philosophie de vie de Michel Rostin, l'écrivain, c'est une philosophie de vie. C'est-à-dire pour lui, la vie, c'est avant tout la vie. Et oui, il y a la mort dedans, mais il faut vivre sa vie pleinement. Donc il faut faire du théâtre pleinement, de la musique pleinement. Il faut écrire pleinement. Il faut et donc il vit la mort, le deuil de son fils pleinement aussi. Donc il pleure, il écrit beaucoup de pages sur pleurer, comment pleurer, combien de fois il pleure, dans quel...
Et en général, on dit justement dans les moments de deuil, ce qui fait que les gens ont du mal à passer outre le deuil, ou en tout cas ce qui s'est passé, c'est qu'ils s'empêchent d'être tristes et limite, en fait, ils veulent pas pleurer. Alors que finalement, quand on est triste, vaut mieux y être 200% et ça passe plus vite. Et souvent, c'est un peu, et c'est assez étonnant qu'il ait cette philosophie, parce que c'est généralement l'inverse que les gens ont quand il s'agit de la tristesse et du deuil.
C'est parce que c'est une philosophie personnelle qu'il a depuis tout petit. Depuis tout petit, il y a une phrase que, si je la retrouve, je vous la lis. Mais en fait, il faut vivre sa vie pleinement à fond. Il a une phrase qu'il répète 3-4 fois dans le bouquin. Et puis aussi, il y a une autre phrase qui revient, qui est venue par un copain à lui qui l'a appelé le soir de la mort de son fils. Je voulais dire le soir. C'est un remerciement. C'est en fin de page. Mm-hmm. Hein, ça fait plus partie du récit. Le soir même de la mort de notre fils, Daniel Michel me téléphona. Je ne sais pas si un pareil jour tu peux entendre ce que je voudrais te dire, mais j'ai vécu cette horreur il y a quelques années, ce désespoir absolu. Je veux te dire qu'on peut vivre avec ça. Et donc la phrase « je veux te dire qu'on peut vivre avec ça » lui reste dans son deuil et il a, c'est une des phrases qu'il a envie de transmettre. Il dit « oui, c'est monstrueux et en plus c'est leur fils unique, Martine et Michel, donc un seul fils ». Et il meurt à 21 ans. Donc, quand je parle de livres qui parlent de deuil, c'est pas que du deuil d'une personne morte, c'est aussi c'est le deuil d'être père. C'est-à-dire que je suis papa, tout d'un coup mon fils unique est mort, je ne suis plus papa.
Et puis le deuil anticipé, le deuil d'être grand-père, le deuil
le troisième deuil qui se passe dans ce livre, mais qui est encore plus fort dans celui de Fournier, c'est le deuil grand-parental, c'est-à-dire ils vont jamais devenir grands-parents.
Non.
Ils se disent putain, il y a plein de trucs qu'on va manquer là parce que
c'est fini, c'est le deuil d'un futur qui était tracé.
Ouais. Et il y a même un moment dans le livre où Martine, sa femme, lui dit mais je comprendrais que tu fasses un enfant et une autre femme parce qu'elle, ils ont la cinquantaine quand ce pépin leur arrive, quand leur fils meurt à 21 ans, ils ont la cinquantaine, ils se disent mais bon, ça y est, on est foutu, on n'a plus de descendance, on n'a plus rien. Après nous, c'est fini. Après nous, c'est Et donc il y a beaucoup de questions existentielles. Dieu est là-dedans dans les deux bouquins. Dieu sacré bon Dieu, je vais t'avoir écrit, c'est Fournier. Et l'autre, la question où c'est athéiste, mais c'est pragmatique. Donc il n'y a pas de haine de Dieu, mais il y a le je vais te rebuter. Alors que l'autre, c'est athéiste, communard, revanchard.
Mais les gens sans enfants se posent aussi ces mêmes questions existentielles. C'est le même, enfin, sans le parcours du deuil, quoique il y a un deuil de l'enfant qui est pas là.
Oui.
Mais oui, c'est les mêmes questions existentielles sur on n'est pas parents, on sera pas grands-parents, on sera pas,
voilà,
il
n'y
a pas de descendance, il n'y a pas, qu'est-ce qu'on laisse derrière nous, quel type de traces,
la transmission du gène ne se fait pas.
Puis même la transmission de la mémoire, de ce qu'on a fait, de qui on est, de qui se souviendra de
savoir,
ces gens-là.
Et d'une culture. Donc il y a beaucoup de trucs comme ça. Moi, honnêtement, le fiche, je recommande, en tant que récit, en tant que.
Je vais peut-être le piquer.
Qu'écriture, moi, j'ai bien aimé. Et c'est très positif, ça reste.
Tu ressors de la lecture assez positif.
Aussi, ce qu'on apprend, c'est comment avoir de très belles obsèques. Alors, lisez ce bouquin. Si vous voulez vous faire des obsèques fantastiques, il faut lire le bouquin. C'est-à-dire que pas des funérailles à la con ou. Faut lire je vais pas le divulguer parce que c'est bien dans le livre. Il y a deux exemples de funérailles, un d'un copain qu'ils ont vécu juste trois mois avant la mort de leur fils, et genre funérailles pas drôle, et l'autre, le funérailles de leur fils qui font eux-mêmes, en fait. Et donc je veux pas en dire plus, voilà. Il nous reste que 4 minutes, donc je fais rapide. On veut une chanson maintenant ou une chanson en fin?
On finira si on attend.
Parce que j'ai quand même fait allusion à Jean-Louis Fournier, donc lui, la télé, la Noiraude, machin, producteur, aussi un genre de deuil. Lui, c'est un peu plus compliqué. En fait, il a écrit ce bouquin en 2008. C'est aussi assez personnel. En fait, pendant 30 ans, il n'a dit à personne qu'il avait deux fils sous-doués, c'est-à-dire en fait handicapés mentaux et physiques. Donc, il écrit un livre. Qui vivait avec lui jusqu'à l'âge genre de 15 ans. Puis, au bout à l'âge de 14-15 ans, ils les ont mis en institution. Tout le monde tombe des nues parce qu'il n'y avait jamais parlé. Et il était divorcé de sa femme, sa première femme qui avait fait les deux enfants avec lui aussi, les deux garçons, et puis Mathieu et Thomas. Et puis il s'était remarié, et donc il n'avait pas d'enfant avec sa deuxième femme. Donc ça passait ni vu ni connu, puis il voulait pas en parler parce que ça le faisait chier de parler des enfants. Tes enfants, ils ont fait des études, ils sont formidables, machin, chose. Puis lui, il a deux handicapés, mentaux et physiques, à la naissance. Genre donc eux c'est donc le livre c'est génétique, oui. Malheureusement, bizarrement, il a eu un troisième enfant avec la même première femme, une fille qui est belle comme un cœur et qui est parfaite et qui est pas malade. Alors je vous lis la première page. Cher Mathieu, cher Thomas, quand vous étiez petit, j'ai eu quelquefois la tentation à Noël de vous offrir un livre, un Tintin par exemple. On aurait pu en parler ensemble après. Je connais bien Tintin. Je les ai lus tous, plusieurs fois. Je n'ai jamais fait. Ça n'était pas la peine. Vous ne saviez pas lire. Vous ne saurez jamais lire. Jusqu'à la fin, vos cadeaux de Noël seront des cubes ou des petites voitures. Maintenant que Mathieu est parti chercher son ballon dans un endroit où on ne pourra plus l'aider à le récupérer, maintenant que Thomas, toujours sur la terre, a la tête de plus en plus dans les nuages, je vais quand même vous offrir un livre. Un livre que j'ai écrit pour vous. Pour qu'on ne vous oublie pas, que vous ne soyez pas seulement une photo sur une carte d'invalidité, pour écrire des choses que je n'ai jamais dites. Donc c'est la première page, et ça c'est plutôt assez noir, assez négatif, mais bon, on rigole quand même, c'est de l'humour très noir. Son ancienne femme a tenté un procès et elle a fait un contre-blog manifestant en disant nos enfants n'étaient pas comme ça, c'était pas des débiles mentaux. Parce qu'il est très cru en plus, donc très cru, très humour noir. Voilà, je vous conseille quand même, mais moins que l'autre. Voilà, on se dit au revoir en musique. C'était quoi le truc que t'as choisi là?
Alors là, je vais vous passer Viens, toujours de Barbara Heldens, et je vous recommande donc son album que l'on trouve sur iTunes et sur Spotify.
D'accord.
Je vous dis bonsoir.
Merci Anso et Virginie, merci d'être venue. Et
oui.
Becherel, très intéressant. Ça nous a posé des trucs. Et là, c'est quoi
à consulter le Becherel, mais Becherel. Je vous garantis que vous ne saurez jamais toutes les règles et toutes les formes de verbes.
À moins que vous l'appreniez par cœur.
Merci David.
Bonne semaine à tout le monde.
Bonne semaine.
Et fuyons les batailles et les regards jaloux qu'il nous faut affronter. Viens, oublions que nos cœurs ont déjà traversé mille chemins délabrés. Viens, j'affiche à mon compteur la moitié du trajet, je n'ai rien vu passer. Viens, on a brûlé tout le bois qu'il y avait à brûler et l'hiver va durer. Viens, il n'y a plus rien, je crois, dans ce foutu passé qui puisse nous réchauffer. Viens, suivons le soleil dans sa course effrénée, indifférence.